des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, dans cette émission Parcours, nous allons remonter le cours du temps, loin, très loin, jusqu'à 500 millions d'années, époque des premiers vertébrés, qui d'ailleurs ne l'étaient pas tous, mais ça nous le verrons dans cette émission, puisque notre invité du jour est spécialiste de la question. Philippe Janvier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie au cœur de l'Institut de France. Vous êtes paléontologue, directeur de recherche au CNRS, et vous travaillez donc au Musée national d'histoire naturelle à Paris. Et vous êtes accompagné de Jean-François Bach. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bien sûr le secrétaire perpétuel ici de l'Académie des sciences et également professeur d'immunologie à Necker. Et vous êtes également membre du jury du prix de la Fondation Simone et Sinou de Luca, prix Philippe Janvier que vous avez reçu le 11 juin 2008 sous la coupole et qui récompense vos travaux sur la phylogénie et l'évolution des premiers vertébrés. Et rappelons donc que la phylogénie, c'est l'histoire évolutive des espèces. Alors avant de vous donner la parole, Philippe Janvier, vous nous direz tout ce que vous savez sur les amphibiens, les reptiles, ce véritable travail d'enquête qui consiste à reconstituer la racine de l'arbre généalogique des vertébrés. Jean-François Bach, je m'adresse à vous. Pourquoi avoir choisi de récompenser les travaux de Philippe Janvier ?
Eh bien, le prix Del Duca est destiné à récompenser des travaux de recherche dans des domaines de grande importance pour la recherche, mais également pour la société. Or, c'est un secret pour personne que le thème de l'évolution, mais aussi le thème de la biodiversité, représente des grands enjeux qui sont éventuellement le sujet de préoccupation de certains. Alors, les enjeux et les préoccupations ne sont pas tout à fait les mêmes. La biodiversité, on s'en félicite, c'est la richesse de notre planète. C'est aussi un souci de préoccupation parce qu'on craint qu'elle diminue à cause de l'environnement dont on parle beaucoup. Et cette biodiversité, elle est liée à l'évolution parce qu'elle est d'une certaine façon le produit de l'évolution. C'est la raison pour laquelle le jury du prix Del Duca a souhaité dédier son grand prix de recherche cette année à ces deux thèmes de l'évolution et de la biodiversité.
Oui, puisque vous le disiez en préparant cette émission, c'est vrai que la Fondation Simone et Sinou de Luca délivre plusieurs prix. Donc là, c'est le prix scientifique.
Absolument.
Philippe Janvier, comment réussir à dater l'arrivée des premiers vertébrés ? Et puis d'abord, ces premiers vertébrés, est-ce qu'ils étaient réellement vertébrés ? Est-ce qu'ils avaient des vertèbres ?
Probablement pas. Les tout premiers vertébrés sont des fossiles, on les connaît à l'état fossile. Ce sont des empreintes, si vous les voyez. Ça ressemble plutôt à une limace écrasée sur une autoroute un jour de pluie. Mais pourtant, grâce à un certain nombre de techniques d'observation, et lorsqu'on a beaucoup de spécimens, on arrive à en tirer un certain nombre d'informations. Alors évidemment, c'est les plus anciens que l'on connaisse. Ils ont autour de 535 millions d'années. Et on les trouve dans le sud de la Chine, dans la région de Kunming, à Shenjiang, le célèbre site de Shenjiang, qui est daté de la période géologique que l'on appelle le Cambrien. Ces plus anciens fossiles de vertébrés, sur lesquels j'ai travaillé avec mes collègues chinois, montrent quand même un certain nombre de structures qui, au total, nous sont un petit peu familières déjà, puisqu'il y a déjà une paire d'yeux parfaitement formée, qu'on voit très bien à l'état d'empreinte, un organe olfactif au milieu, un corps qui ressemble à un corps de petits poissons, des branchies avec des filaments branchiaux. Donc finalement, quelque chose d'assez banal qu'on aurait pu, ou que même d'ailleurs des scientifiques au XIXe siècle avaient déjà un peu imaginé comme à l'époque du darwinisme naissant, avaient imaginé comme un possible ancêtre hypothétique des vertébrés. Et là, on a réellement le fossile. Donc c'était effectivement une très grande satisfaction de voir matérialiser ces fossiles. Mais même s'ils ne sont pas trop informatifs, c'est quand même On est vraiment très content d'avoir aussi loin, dans un passé aussi profond, ces traces de structures anatomiques typiques de vertébrés. Mais naturellement, les vertèbres elles-mêmes, ce qui fait notre colonne vertébrale, n'apparaît que beaucoup plus tard, vers 400 millions d'années.
Ce passé aussi profond, justement, puisque vous en parlez, j'imagine que depuis ces 500 millions d'années, et même avant, jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup d'espèces dont on n'a aucune trace. Donc peut-être que l'on peut encore remonter, peut-être que l'on pourrait remonter encore plus loin pour ces premiers vertébrés qui n'en sont pas totalement.
Oui, tiens, c'est curieux. Vous dites remonter encore plus loin. Et nous, on dit souvent descendre plus bas. Mais c'est vrai qu'on pourrait, mais malheureusement, aux alentours de 550 millions d'années, il y a eu ce qu'on appelle cette explosion cambrienne, j'aime pas beaucoup le terme, cette apparition extrêmement rapide d'une grande diversité de plans structuraux des animaux en particulier, qui nous masque le passé vraiment profond de l'histoire de la vie. Et peut-être que ce passé profond n'est pas si profond que ça. C'est, il y a eu une longue période dans l'histoire de la vie de peut-être 2 milliards ou 2 milliards 500 millions d'années, pendant laquelle l'histoire de la vie était un long fleuve tranquille avec des petits organismes qui possédaient déjà un noyau cellulaire, des eucaryotes. Mais l'alchimie qui a permis la formation de cette diversité animale que l'on connaît actuellement ne s'est faite que pendant un temps assez bref, peut-être quelques 2-3 centaines de millions d'années, pour certains disent un peu plus, mais enfin, c'est toujours très difficile à évaluer. Mais c'est vraiment à la fin de la période qu'on appelle le précambrien, c'est-à-dire environ 550 millions d'années. Et là, effectivement, on voit apparaître ces structures reconnaissables qui nous sont familières. Avant, on ne sait pas. Et avant, peut-être que c'est simplement la biologie, la génétique du développement qui peut nous donner une idée, une piste pour essayer d'imaginer quel était l'ancêtre commun de, par exemple, des vertébrés, des arthropodes. On a toute latitude d'imaginer un certain nombre de structures, disons, dans la limite de ce que nous autorise la connaissance objective de la nature actuelle et fossile.
Lors de cette présentation d'émission, je parlais de reconstituer les racines de l'arbre généalogique des vertébrés. Et là, je fais référence à un article que vous m'avez communiqué pour préparer cette émission, sur lequel il est évoqué les lignées fantômes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces lignées fantômes?
Ah, les lignées fantômes. Oui, les lignées fantômes, c'est très curieux. Bon, c'est un nom que l'on a donné aux segments des branches de l'arbre phylogénétique des vertébrés qui ne sont pas documentés par les fossiles, mais que l'on peut inférer par rapport à leurs branches sœurs, leurs collatérales, qui, elles, peut-être documentées par les fossiles. Par exemple, si dans la nature actuelle, certains vertébrés sans mâchoire qui n'ont pas de squelette minéralisé et qui donc ont très peu de chances de se conserver, encore qu'il y ait quelques fossiles, comme par exemple les lamproies, leur groupe frère serait dans la nature actuelle les vertébrés possédant des mâchoires, comme nous-mêmes, qui eux possèdent un squelette minéralisé et fossilisable. Eh bien, lorsque l'on arrive au niveau des plus anciens vertébrés à mâchoires, qui se situent vers environ 470 millions d'années, on peut, à ce moment-là, considérer qu'obligatoirement, il devait déjà y avoir aussi le groupe frère, le collatéral, c'est-à-dire les lamproies, même si on n'en a pas de fossiles. Et justement, ce qui est très, très excitant pour le paléontologue, c'est d'essayer de courir après ces lignées fantômes, ou plus exactement de les matérialiser par quelques fossiles de temps en temps, qui par chance, dans des conditions de fossilisation tout à fait exceptionnelles, peuvent être découvertes. Par exemple, il existe à l'état fossile des lamproies tout à fait reconnaissables, très semblables d'ailleurs aux actuelles, à 300 millions d'années.
Est-il possible, justement à partir de ces lignées fantômes et à partir de vos connaissances, de savoir par exemple combien d'espèces subsistaient sur notre planète Terre il y a 500 millions d'années ?
C'est impossible. C'est impossible. Le nombre de... Il y a eu des évaluations de la biodiversité fossile telle qu'elle a dû exister, il y a eu des calculs extrêmement savants, aucun n'est véritablement fiable. Tout ce que l'on pense actuellement, ce qui est généralement admis, c'est que à peu près 99,9% des espèces animales qui ont vécu sur Terre ont disparu. C'est-à-dire que la biodiversité actuelle, qui est de l'ordre de quelques 7 millions d'espèces, ce qui n'est pas d'ailleurs énorme, contrairement à ce que l'on pense, eh bien, est une toute petite partie de tout ce qui a vécu sur la Terre depuis l'origine de la vie.
Est-ce qu'il faut différencier, est-ce que le paléontologue différencie les premiers vertébrés marins des premiers vertébrés amphibiens, terrestres? Est-ce qu'il y a comme ça des différenciations? Parce que j'imagine que les premiers vertébrés terrestres sont apparus bien après les vertébrés marins.
Oui, tout à fait. L'histoire des vertébrés a commencé dans l'eau et dans la mer même. Et puis petit à petit, c'est un concours de circonstances tout à fait extraordinaire, petit à petit, les vertébrés se sont rapprochés de la Terre, puis ont fini par monter sur la Terre ferme et à y vivre tout à fait parfaitement. Alors, ça a été lié, c'est une longue histoire, pleine de contingences, c'est-à-dire que la première contingence, ça a été l'apparition de l'oxygène libre en grande quantité dans l'atmosphère. Et ça, on la doit aux végétaux, aux plantes vertes, aux plantes chlorophylliennes. Donc, les végétaux ont été les premiers à sortir de l'eau. Il y a eu aussi quelques essais timides faits par les arthropodes, hein, les petites espèces de petits crustacés, enfin, ou des divers précurseurs des insectes. Mais pour ce qui nous intéresse, enfin, dans le cas des vertébrés, ça a été une lente acclimatation à cet environnement qui était tout à fait inamical pour les vertébrés au départ. Hein. C'était même les vertébrés terrestres, tout à fait à l'origine, ont failli disparaître. Ils ont commencé timidement à apparaître vers 370 millions d'années, et puis après, on ne les voit plus. Ils semblent avoir disparu. En fait, ils n'avaient pas disparu, ils étaient restés dans des endroits un petit peu plus tranquilles, à l'abri de certaines causes d'extinction massive. Et puis ensuite, ils se réveillent au Carbonifère vers 300 millions d'années pour devenir là vraiment très nombreux et conquérir la Terre ferme, c'est-à-dire s'affranchir progressivement du milieu aquatique et pondre des œufs, être capable de pondre des œufs hors de l'eau. Enfin, c'est ce qu'on appelle la révolution des amniotes. Nous sommes des amniotes, ce qui nous permet de ne plus avoir besoin de mettre nos petites larves dans les marécages, dans l'eau. Donc les premiers vertébrés, mais curieusement, les tout premiers vertébrés tétrapodes, c'est-à-dire les vertébrés quadrupèdes capables de sortir de l'eau, leurs pattes, même si ça nous évoque des petites pattes à cinq doigts, ou plus de cinq doigts parfois, elles étaient faites au départ pour nager, elles n'étaient pas faites pour monter. Il n'y avait aucune prévision, aucune anticipation. Ils ne sont pas dit, tiens, on va transformer nos nageoires en pattes pour pouvoir sortir de l'eau. Non, non. C'est purement contingent d'une période où il y avait beaucoup de marécages côtiers, de marais côtiers qui permettaient à ces animaux de s'adapter à une vie un petit peu comme le marais Poitevin. Ils avaient une vie qui était un petit peu amphibie, à la limite entre deux mondes.
On a parlé donc de ces différentes espèces. Si nous avançons, si nous poursuivons, les oiseaux, est-ce que ce sont des dinosaures ou pas?
C'est des dinosaures.
Ce sont des dinosaures.
Ou peut-être les dinosaures sont-ils des oiseaux primitifs. Les oiseaux, il n'y a aucun doute maintenant, ce sont vraiment des dinosaures. Mais le départ, le début de l'origine des oiseaux a été une évolution en mosaïque, aussi faite également de contingences, de hasards. Pourquoi sont apparues les plumes? Quel a été le premier rôle des plumes? Il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Probablement que les plumes avaient au départ un rôle dans le maintien de la chaleur du corps. Mais après, c'est devenu plus tard, beaucoup plus tardivement, c'est devenu un organe, une structure destinée au vol. Et toutes les spécialisations des oiseaux actuels font penser effectivement à une adaptation au vol. On dit, oh, ils sont merveilleusement adaptés au vol. Mais en réalité, ça a été une suite d'innombrables essais avortés ou réussis au cours de près de probablement 50 millions d'années.
Il y a eu plusieurs extinctions d'espèces, hein. Il y a eu plusieurs vagues comme ça d'extinctions d'espèces, et à chaque fois la vie a repris le dessus. Comment on l'explique? Comment on explique que après ces vagues d'extinction, ces espèces reviennent à la vie?
C'est la formidable force de la vie qui, dès qu'il y a une petite trace, il suffit qu'il y ait une espèce vivante qui subsiste ou quelques espèces vivantes qui subsistent après une grande période d'extinction. Il y a ce qu'on appelle une période de reconquête, c'est-à-dire qu'une ou deux de ces espèces se mettent à pulluler et se diversifient, acquièrent une grande diversité génétique, puis se redivisent en autres espèces. Et c'est une, c'est sans fin.
Mais il y a tout un climat qui change, qui évolue. Oui. Donc il faut que ces animaux s'adaptent au fur et à mesure. Et
c'est une adaptation continuelle, perpétuelle des espèces à des événements qui sont tout à fait de l'ordre de la contingence. Ça peut être une énorme météorite, comme cela a été évoqué pour les dinosaures. Ça peut être des changements de la composition de l'atmosphère terrestre avec une augmentation considérable du méthane, par exemple, des gaz à effet de serre, comme c'est le cas, ça a été peut-être le cas il y a 250 millions d'années au Permien. Mais à chaque fois, ça repart. Et donc, il y a quand même quelques espoirs en vue, pour, même si on parle de perte de la biodiversité, il y a certainement encore des ressources sur notre petite planète.
Philippe Janvier, on marque une courte pause. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons de votre parcours qui vous a mené jusqu'au Muséum National d'Histoire Naturelle et notamment, nous parlerons de votre enfance. À tout de suite. De notre émission Parcours, toujours en compagnie de Philippe Janvier et de Jean-François Bach qui nous accompagne pour cette émission Parcours que nous avons l'occasion d'enregistrer puisque vous venez de recevoir le prix scientifique de la Fondation Simone et Sinodel Duca. Philippe Janvier, actuellement vos travaux portent sur quel domaine, puisque pendant la pause vous parliez des tissus mous, vous allez pouvoir nous en parler un peu plus en détail, et puis vous êtes amené bien sûr à vous déplacer et vous travaillez actuellement en Bolivie.
Oui, c'est toujours surprenant quand on, pour un paléontologue, de jongler en permanence entre le monde de la biologie et les structures anatomiques et le monde de la géologie. Mais c'est vrai que pour trouver des fossiles, quand on est paléontologue, on doit travailler sur des fossiles. Et pour trouver des fossiles, il faut se promener à travers le monde et faire beaucoup de terrain, casser des cailloux pour essayer de trouver des nouveaux fossiles.
C'est une partie très sympathique de votre travail. Une des parties.
Oui, j'aime bien faire du terrain. J'avoue que j'aime bien, je partage ça avec beaucoup de mes collègues paléontologues. Et ça nous change, effectivement. Mais là, actuellement, je travaille surtout sur les terrains du Dévonien, qui ont environ 400 millions d'années. Et je cherche des très vieux poissons du Dévonien, et en particulier des vieux requins, les plus anciens requins.
Les requins primaires.
Des requins primaires, voilà. Dans le sud de la Bolivie, qui est une région qui se trouvait, à cette époque-là, à l'emplacement du pôle sud. C'était la région polaire. Mais il faisait probablement pas aussi froid qu'on l'a cru à un moment donné. Il y avait un océan qui bordait le continent sud-américain, qui était à l'époque d'ailleurs réuni avec d'autres continents. Et c'est curieux parce que j'ai trouvé là en Bolivie un monde tout à fait différent de celui qu'on a l'habitude de voir pour la même époque dans la zone tropicale de ce monde d'il y a 400 millions d'années du Dévonien. C'est tout à fait un autre monde, c'est pas les mêmes bêtes. Et je suis surpris par l'abondance extraordinaire des requins et la diversité des requins qui, par contre, sont presque absents ou très rares dans la zone intertropicale de la même époque, comme par exemple l'Australie ou le Moyen-Orient ou même la France, l'Europe ou l'Amérique du Nord. Donc là, c'est un nouveau monde. Et c'est peut-être là que se cachaient ces premiers requins que j'ai trouvés il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, il y a quelques années, dans le Dévonien de Bolivie, qui ont des structures extrêmement particulières, qui sont vraiment tout à fait surprenantes.
Mais justement, comment vous les trouvez, ces requins? C'est en montagne, bien sûr, j'imagine.
Oui,
puisque
c'est en montagne, c'est très haut. Oui, il se trouve qu'ils sont... les couches de terrain ont été relevées par le plissement des Andes, la surélection des Andes, et on trouve ces fossiles dans des espèces de petites, ce qu'on appelle des concrétions, Alors évidemment, il y a des couches de marne, par exemple, ou de grès, et on trouve des petites concrétions qui ressemblent à des pommes de terre. D'ailleurs, les Indiens souvent m'en amènent en disant « Oh, regardez, c'est des pommes de terre en pierre !» Patatas de piedras. Et au papas de piedras, avec l'accent sud-américain. Et on casse ces concrétions, et à l'intérieur, on a une chance sur 100, disons, de trouver un petit crâne d'un poisson fossile. Mais ça peut être aussi un crustacé, ou un trilobite, ou un... Les fossiles sont très bien conservés, parce que cette conservation dans des concrétions évite, au moment de leur fossilisation, l'écrasement. Et après, pour étudier ces fossiles dans des concrétions, nous pouvons les dégager avec des instruments mécaniques, comme on faisait classiquement. Mais maintenant, de plus en plus, nous utilisons des scanners, ce qui est le fin du fin de la technique d'étude des fossiles actuellement. Mais ça donne des résultats absolument extraordinaires. Ça peut être des scanners à rayon X conventionnels, mais on peut également utiliser le rayonnement synchrotron qui donne des résultats, une résolution bien meilleure, et ce qui est souvent nécessaire pour arriver à percer ces structures minéralisées qui, quand même si elles n'ont que quelques centimètres d'épaisseur, sont bigrement opaques au rayon X.
Ces requins primaires, pour revenir deux minutes sur cette espèce, justement, pourquoi sont-ils qualifiés de primaires? Quelle est la différence avec nos requins actuels?
Mais ils sont de l'époque primaire, oui. Paléozoïque. Mais leur différence, c'est très curieux, c'est qu'on croyait que les requins étaient très primitifs. Quand on voit un requin, on se dit que c'est l'image même du vertébré primitif. Et depuis des lustres, l'enseignement de la biologie montrait toujours la roussette ou le requin comme le modèle typique d'un vertébré primitif. Et bien finalement, les premiers requins sont beaucoup plus proches des poissons osseux sur le plan anatomique que des requins modernes. C'est-à-dire qu'il semblerait que les requins modernes, non seulement ils ont perdu leur capacité de produire de l'os, à l'origine les requins possédaient encore cette capacité, dans une moindre mesure, mais possédaient encore cette capacité de produire de l'os dans leur squelette, alors que maintenant ils n'en produisent plus, ou très peu, enfin c'est tout à fait exceptionnellement. Et donc les requins sont en fait extrêmement spécialisés, ils nous apparaissent primitifs parce qu'on, dans le subconscient de l'anatomiste et du biologiste, le requin se devait d'être primitif, mais en fait il est probablement extrêmement spécialisé et il a perdu cette capacité de produire de l'os. Ça a été notre grande surprise quand on a étudié avec un collègue américain ces plus anciens requins connus du Dévonien, c'est de voir que l'anatomie de leur crâne était finalement très proche de celle des poissons osseux qui eux-mêmes sont à l'origine de nous-mêmes, qui sont un peu à l'origine des vertébrés quadrupèdes terrestres. On retrouve là ce pouvoir de la paléontologie de donner des informations anatomiques qui sont tout à fait contre-intuitives.
Une autre étude sur laquelle vous travaillez actuellement, peut-être que c'est la suite de cette étude sur les requins en Bolivie, c'est de travailler sur les tissus mous. Pareil, vous en parliez pendant cette pause avec Monsieur Beck qui est avec nous en studio. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces tissus mous qui sont conservés de manière apparemment extraordinaire, qui sont fossilisés?
Oui, c'est quelque chose qui, pour la paléontologie, a longtemps été considéré comme anecdotique. Bon, ça peut arriver qu'on ait des traces, des empreintes dans un fossile de tissus mous qui peuvent se transformer, on disait toujours, en une sorte de bitume, de charbon, des traces charbonneuses. Et que, bon, la belle affaire, c'est montrer qu'un vertébré, par exemple, de 400 millions d'années avait des muscles,
vous voulez
ça
dire,
fait pas progresser la science.
Hormis l'aspect anecdotique, ça n'apportait pas beaucoup d'éléments aux paléontologues.
Oui, mais là, on a aussi accès à des conservations exceptionnelles de tissus mous qui sont générées par la production de certaines bactéries au moment de la décomposition du cadavre. Les bactéries mangent le phosphore et elles excrètent du phosphate de calcium qu'elle redépose immédiatement sur les tissus, qui les conserve. C'est un petit peu comme ces petites violettes qui sont trempées dans le sucre, là, vous voyez, qu'on met sur les gâteaux. Immédiatement, il y a une sorte de, non pas de momification, mais de fossilisation des tissus mous, qui se passe d'ailleurs en très peu de temps, en quelques jours ou même quelques heures. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous permet parfois d'obtenir des informations sur des structures, ça peut être des vaisseaux sanguins, ça peut être les muscles, ça peut être parfois des structures nerveuses, des nerfs, même dans certains cas le cerveau. Et ces informations sont précieuses car elles permettent d'assurer des ponts entre des groupes zoologiques que l'on considérait comme extrêmement éloignés et extrêmement distincts.
Vous avez un exemple ?
J'ai des exemples. Par exemple, on avait des poissons fossiles, il y avait simplement 100 millions d'années au Brésil, que l'on a considéré comme apparenté à un groupe qu'on appelle les Amia actuels d'Amérique du Nord. Et il y avait par ailleurs, la majorité des poissons actuels sont des téléostéens, c'est-à-dire des poissons comme par exemple les maquereaux, les harengs, les morues, qui ont des structures, des branchies tout à fait particulières. Et entre les deux, entre les Amia et les téléostéens, on avait beaucoup de difficultés à imaginer la transition entre des structures, des branchies, des deux qui étaient tout à fait différentes. Le mode de vascularisation des vaisseaux sanguins était tout à fait différent. Et dans ces poissons fossiles d'environ 100 millions d'années du Crétacé du Brésil, poissons fossiles que malheureusement on trouve aussi vendus dans le commerce chez les marchands de fossiles, eh bien, il y a des conservations exceptionnelles, et en particulier des conservations exceptionnelles de tissus mous et des lamelles branchiales. Et un de mes collègues britanniques a étudié ces conservations exceptionnelles des branchies et a montré que la structure de l'irrigation de ces lamelles branchiales était tout à fait intermédiaire entre celle d'Amia et celle des téléostéens. Donc c'est un exemple d'une situation intermédiaire, d'une structure, la découverte d'une structure intermédiaire à partir de ces structures molles.
Et finalement pouvoir tirer profit de cet élément. Mais alors j'imagine qu'il doit y avoir des spots où l'on retrouve par exemple bien des poissons, puisque ce sont les premiers vertébrés, des spots où on retrouve des poissons avec une conservation de certains tissus mous.
Oui, par exemple en Australie, il y a un superbe gisement de poissons qui a environ 370-380 millions d'années, le fameux gisement de Gogo qui est en plein milieu du désert de l'Ouest australien. Et là, on vient justement de découvrir un cas de conservation exceptionnel dans un groupe de poissons fossiles qu'on appelle les placodermes, tout à fait éteints, complètement éteints, qui a complètement disparu depuis environ 360 millions d'années. Et là, on vient de découvrir un embryon fossilisé à l'intérieur de la mer. Là aussi, conservation exceptionnelle complète de l'embryon avec le cordon. Vous savez que c'est un groupe de poissons, les placodermes, qui sont probablement assez proches des requins, mais peut-être encore plus primitifs que les requins. Et on a retrouvé le cordon, ce qu'on appelle le cordon ombilical, qui n'a pas tout à fait la même structure que celui des mammifères. Et même la poche, le vitellus, est conservé en tant que structure minérale, mais on la reconnaît, toute la structure est parfaitement conservée, on la reconnaît très bien. Et puis, naturellement, il y a le petit embryon à l'intérieur de la mer, le petit poisson, qui a déjà ses plaques et ses plaques osseuses caractéristiques des placodermes.
Alors, j'imagine que ces éléments, on arrive à les découvrir et à prendre conscience de ces extraordinaires informations. Mais j'imagine que toutes ces informations, on les découvre parce que les outils que vous avez pour, par exemple, le scanner, tous ces outils, vous permettent encore d'aller plus loin dans la découverte de ces éléments.
Oui, là, naturellement, nous avons les techniques en paléontologie ont évolué considérablement, surtout au cours des 50 dernières années. Il y a eu, par exemple, l'utilisation des acides faibles pour dégager les fossiles. Il y a eu tout un tas d'avancées. Mais c'est vrai que pour nous, maintenant, l'utilisation des techniques non-invasives comme le scanner sont un avantage, un atout considérable. Et en particulier, pour certaines structures, naturellement, lorsqu'on utilise la tomographie assistée par ordinateur, mais avec les rayonnements, en utilisant des rayonnements synchrotrons, beaucoup plus permettant d'obtenir des résolutions beaucoup plus fines que le scanner à rayon X normal. Et ça nous permet de voir des détails sans les casser, sans les abîmer, sans rentrer à l'intérieur du fossile, de voir des détails qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Là, j'ai un de mes doctorants qui vient de découvrir à l'intérieur du crâne d'une sorte de requin, ou plus exactement une chimère d'environ 330 millions d'années, quelque chose qui est vraisemblablement un cas de conservation exceptionnel du cerveau, avec les nerfs crâniens qui vont là exactement là où ils doivent aller. Et c'est un cas tout à fait extraordinaire. Le cerveau est transformé en phosphate de calcium. C'est extrêmement surprenant de voir l'image de ce cerveau apparaître grâce au scanner au rayonnement synchrotron. C'est tout à fait stupéfiant d'obtenir l'imagerie, enfin d'arriver à avoir une reconstitution en 3D de ce genre de structure.
Alors, nous arrivons malheureusement au terme de cette émission. Pour terminer, quand même, revenons à ce prix Del Duca qui nous permet de vous recevoir ici dans notre studio. Ce prix, bien sûr, il est accompagné d'une somme de 300 000 euros. J'imagine qu'elle va vous permettre de poursuivre vos recherches dans ce domaine. Quelle va être la suite logique des choses pour vous ?
Oui, alors précisément, cette manne qui m'arrive est tout à fait inespérée. Je pense que je vais essentiellement l'utiliser pour équiper le muséum et mon laboratoire, mais surtout l'ensemble du muséum, avec un bon scanner qui permettrait justement d'appliquer ces nouvelles techniques non-invasives, non seulement aux fossiles que nous avons, mais peut-être, pourquoi pas, aux fossiles humains et aux objets préhistoriques qui sont étudiés dans le cadre des activités du muséum. C'est naturellement quelque chose qui... Ces scanners sont des outils naturellement extrêmement coûteux que peu de musées au monde peuvent se permettre d'avoir. Il y en a quelques-uns en France qui ont été mis en place grâce à des partenariats publics-privés qui peuvent être utilisés au coup par coup par les scientifiques. Et puis, naturellement, il y a le synchrotron de l'ESRF de Grenoble dans lequel nous faisons régulièrement des demandes auxquelles nous faisons des appels pour des cas très particuliers d'études très fines, de tomographie extrêmement fine de certaines structures.
Donc ça va vous permettre de vous équiper.
Oui, ça incontestablement.
Eh bien, je vous remercie, Philippe Janvier, de nous avoir accordé un peu de temps pour nous donner tous ces détails sur l'objet de vos travaux. Merci, Monsieur Beck. Peut-être souhaitez-vous rajouter quelque chose sur le prix Del Duca qu'a reçu Philippe Janvier ?
Volontiers, simplement pour dire que Philippe Janvier peut être fier d'avoir reçu le prix Del Duca parce qu'il y avait de nombreux concurrents, français et étrangers. C'est un prix international. Et il faut lui dire aussi que le jury s'est appuyé sur des expertises internationales. Nous avons envoyé tous les dossiers reçus, donc, comme je disais, de très nombreux pays. Nous avons envoyé ces dossiers à des experts étrangers qui nous ont donné leur opinion. Et c'est donc en faisant la synthèse de ces opinions d'experts étrangers et de celles des membres du jury français que le choix a été fait. Donc c'est un prix qui est d'autant plus mérité qu'il est attribué dans un contexte grande compétition internationale.
Il y avait
toutes mes félicitations.
Et il y avait beaucoup de candidatures ? Ou il y avait beaucoup de dossiers ?
Alors, nous avons reçu près de 20 candidatures, donc c'était quelque chose, et je peux vous dire que c'était des dossiers solides, hein. C'était pas des dossiers d'amateurs. Hein.
Mais celui de M. Janvier était plus solide que les autres.
Ah voilà, voilà, il a été donc reconnu assez vite, et nous avons tous été très très heureux. Ça nous a fait plaisir, il faut dire aussi, de pouvoir reconnaître un chercheur français au sein de cet ensemble de grands noms internationaux. Ça montre bien que la recherche française dans ce domaine se porte bien.
Eh bien, merci Monsieur Beck de nous avoir accompagnés également au cours de cette émission. Vous m'excuserez, je ne vous ai pas vraiment donné la parole, si ce n'est au début et puis là pour ces dernières paroles. Merci Monsieur Janvier, Philippe
merci.
Janvier. Vous repartez bientôt, j'imagine, en Bolivie ?
J'espère, dans un mois, oui.
Dans un mois. Eh bien, on vous souhaite bon vent et puis alors de bien profiter de votre futur scanner au Muséum National d'Histoire Naturelle. Merci beaucoup, au revoir.
Merci.